actes des apôtres. Le roi Agrippa et sa sœur Bérénice vinrent à Césarée saluer le gouverneur Fétus. Comme ils passaient là plusieurs jours, Fétus exposa au roi la situation de Paul. Il y a ici un homme que mon prédécesseur Félix a laissé en prison. Quand je suis allé à Jérusalem, les chefs des prêtres et les anciens des Juifs ont porté plainte contre lui en réclamant sa condamnation. J'ai répondu que la loi romaine ne permet pas de livrer un accusé sans l'avoir d'abord confronté avec ses accusateurs et lui avoir donné la possibilité de présenter sa défense. Ils sont alors venus ici et sans aucun délai. Le lendemain même, j'ai siégé au tribunal et j'ai fait comparaître cet homme. Mis en sa présence, les accusateurs ne lui reprochaient aucun des crimes que, pour ma part, j'aurais imaginé. Ils avaient seulement avec lui certaines discussions au sujet de leur religion à eux et au sujet d'un certain Jésus qui est mort, mais que Paul déclarait toujours vivant. Quant à moi, ne sachant vraiment pas quelle suite donner à l'instruction, j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire. Mais Paul a fait appel que son cas soit réservé à la juridiction impériale. J'ai donc ordonné de le garder en prison jusqu'à son transfert devant l'empereur. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.
Seigneur a mis son trône dans les cieux.
Le Seigneur a mis son trône dans les cieux.
Béni soit le Seigneur, mon âme. Béni soit son nom très saint, tout mon être. Béni le Seigneur, mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits.
Le Seigneur a mis son trône dans les cieux.
Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin que l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés.
Le Seigneur a mis son trône dans les cieux.
Le Seigneur a son trône dans les cieux. Sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres.
Le Seigneur a mis son trône dans les cieux. Alléluia, 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 Alléluia.
Jésus, le bon pasteur, connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Pour elles, il a donné sa vie.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur, selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Après le repas au bord du lac, Jésus ressuscité dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Johanan, m'aimes-tu plus que ceci? Et lui, il lui répond, oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. Jésus lui dit, sois le berger de mes agneaux. Une deuxième fois, Jésus lui dit, Simon, fils de Johanan, m'aimes-tu? Il lui répond, oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. Jésus lui dit, sois le pasteur de mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Johanan, est-ce que tu m'aimes vraiment? Et Pierre fut peiné parce que pour la troisième fois, Jésus demandait, est-ce que tu m'aimes? Il lui répondait, Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Jésus lui dit, sois le berger de mes brebis. En vérité, je te l'ai dit, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu tendras les mains. Et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Puis Jésus lui dit encore, suis-moi. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Alléluia. 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 Louange à toi, Alléluia.
Que ton évangile, Seigneur, répande son parfum, sa lumière sur toute la terre. Bénède par son onction toutes les âmes assoiffées de perfection éternelle céleste. Qui nous prépare à être libérés de toute entrave, de cet instant libérés de tout péché, lavés de toute faute. Alléluia, Alléluia.
Louange à toi, Alléluia. Louange à toi, Alléluia. Louange à toi, Alléluia. Louange à toi, Alléluia. Louange à toi, Alléluia. Louange à toi, Alléluia.
Du papy Innocent III. C'est bien content de devoir se lever. Tout de suite, l'évangile du pape. Pour notre premier, hein, première synaxe. Et oui, je livre à votre Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est pas. On n'est pas enseigné là-dessus par les docteurs. Hein. Mais par le Saint-Esprit, pourquoi est-ce que Jésus pose trois fois la question? Et les trois réponses de Jésus sont différentes. Chaque fois, Saint-Pierre répond, oui, je t'aime, mais Jésus, lui, il conclut par trois phrases différentes. Il dit, soit, la première fois, c'est soit le berger de mes agneaux, La deuxième fois, sois le pasteur de mes brebis. Et la troisième fois, sois le pasteur de mes agneaux. Ou le berger de mes brebis. Ouais. Enfin, c'est pas la même chose à chaque fois. La première fois, je reprends donc. Sois le berger de mes agneaux la première fois. La deuxième fois, sois le pasteur de mes brebis. Et la troisième fois, sois le berger de mes brebis. Hein? On a une deuxième partie de la nuit tout à l'heure. Mais oui, bien sûr. C'est trois. Voilà, donc le pape Innocent III, lui, c'est l'évangile qu'on lit à chaque fois qu'il y a l'intronisation du pape. Là, c'était le 19. C'est le 19 mars, là, que celui-ci était intronisé avec cet évangile. La lumière est cachée aux sages et révélée aux petits. Et parmi ces tout petits se trouve Pierre. Joli ça. Éloigné de tout orgueil. Il porte bien le nom de Simon qui veut dire celui qui écoute. Il porte bien le nom de fils de Yohanan, fils de Jean, qui signifie la grâce de Dieu. Parce que c'est la grâce de Dieu qui l'a transformé en écoute. Et qui lui donne d'écouter, de n'être qu'écoute. Le bonheur de Pierre est avant tout une question de connaissance. De connaissance d'amour, de foi et de charité. De ces deux vertus, l'une vient en premier lieu et l'autre est la plus importante de tous. Le Seigneur les a requises toutes les deux pour Pierre. La foi, lorsqu'il lui remit les clés, et la charité, lorsqu'il lui confia ses brebis. Au moment de lui remettre les clés, Jésus l'interroge sur sa foi. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre a répondu ce jour-là, tu es Christ, tu es le Fils de Dieu, tu es le Dieu vivant. Et au moment de lui confier ses brebis, le Seigneur l'a interrogé sur sa charité. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci? Et lui avait répondu, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Et plus spécialement, en ce qui concerne la foi de Pierre, on peut juger de la grande charité, de la grande qualité, pardon, par cette réponse, tu es le Christ. Cette foi immense, le Seigneur ne la laissa pas périr dans aucune des épreuves qu'elle lui a traversées. Même si à un certain moment Pierre a hésité, ce qui lui a valu ce reproche du Seigneur, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Sa foi a toujours demeuré, elle est toujours revenue à sa première fermeté. Est élu, c'est toujours dans un contexte effroyable. Toujours. Si on regarde bien, c'est toujours. Je lisais hier. On m'avait donné ça hier, la vie du pape Saint Léon IX, le pape français. Bon. On le voit au Mont Saint-Odile, dans les fresques. C'est un pape alsacien, Léon le Grand. Dès que vous voyez un texte du pape Léon le Grand, tout de suite prenez-le. Hein. C'est.
Et c'est incroyable. Il a été nommé pape, mais c'était à cette époque-là aussi, c'était en 1040, 40 ans après l'an 1000. 40 ans après l'an 1000, c'était vraiment l'état de l'Église comme aujourd'hui, quoi. Les évêques, les prêtres, les chrétiens. Un état, mon Dieu, un état épouvantable. Un état. Presque tous les prêtres étaient avec étaient mariés. C'est totalement interdit. Et les évêques pratiquaient la simonie. Ça se bagarrait là-dedans. Il y avait trois papes. Aujourd'hui, on dit qu'il y en a deux, mais c'est pas que là, il y en avait trois. Alors, il était arrivé comme pape là. C'était pas du tout à l'époque des papes d'Avignon. Les papes d'Avignon, où il y avait eu trois papes là aussi, il y avait eu trois papes. C'était en 1400 et quelques. Là, c'était en 1000. En 1000. Mais lui, quand il est né, il avait des stigmates déjà sur son corps d'enfant, de bébé, à la naissance. Bon, c'est pas spécialement. On ne voit pas des choses extraordinaires. On va voir aujourd'hui parce que les seuls textes des papes qui nous sont donnés dans l'office de Matine et qui nourrissent toute l'Église d'une manière inouïe, c'est ceux du pape français, du pape Léon, Saint Léon, Léon IX. Puis c'est arrivé, alors comme on lui avait appris, alors, on te mènera là où tu ne voudrais pas aller. Alors il était nommé pape au milieu de tout ce désastre, et il a passé son temps à aller à droite, à gauche, à marcher à pied, à partir partout, à aller chez les gens. Il refusait d'être le pontife qui arrivait dans un trône. Non, il allait à Rome, il allait à Padoue, il allait à Pise, il allait en France, il allait en Allemagne, il allait faire des conciles partout. Voilà, il a dit non, mais il a dit pour destituer tous ces évêques qui pratiquaient la simonie, l'adultère public. Enfin, voilà. Il n'y avait plus personne qui soit catholique dedans. Il était tout seul au milieu de la terre. C'est extraordinaire l'Église catholique. Il y a Marie, il y a le pape. Et puis il y a lui aussi. Et puis il y a les stigmates substantiels du Christ. Voilà. C'est les trois qui demeurent. Et à lui tout seul, comme ça, il a parcouru. Et il faut voir les sermons qu'il faisait. On se demande comment cet homme qui était... il était attaqué. Il était attaqué par des soldats. Il y avait des guerres. Alors il assistait là. Il y avait bien sûr des Français qui venaient pour le protéger, qui étaient armés. Alors il voyait tous ces Français qui étaient massacrés comme ça, hein, à coups de glaive devant lui. Le sang jaillissait sur lui. Tout. La vie du pape, c'est formidable. Puis après, il faisait un sermon sur la paix, sur la très sainte Trinité. C'est un sermon qu'on a encore aujourd'hui. Il faut voir le contexte dans lequel il a donné ses enseignements divins, quoi. Il était carrément au ciel. Et pourtant, il était tout le temps sur le front. Incroyable, incroyable. Humainement, on aurait dit que c'est un homme de guerre. Puis à la fin de son pontificat, il a dû mourir assez jeune, à 50 ans. Voilà, c'était fini. Le clergé était restauré. C'était pas parce qu'il avait parlé avec un tel, une cinquantaine de fois, ou 70 fois, ou... Non, il avait fait tout ce qu'il avait pu, c'est-à-dire à multiplier les pains et les poissons, et à multiplier tout, et tout a été restauré. La prière du Saint-Père, la prière de l'Église, la prière de l'infaillibilité, c'est important, vous voyez. On est dans le renversement du méchaume, on est en plein renversement méchaumique. C'est tragique, hein, c'est bien plus tragique que le délabrement qu'il y avait au XIe siècle, ou la catastrophe qu'il y avait au XVe. C'est bien plus tragique ce que nous vivons aujourd'hui, mais c'est plus tragique parce que tout le monde, parce que finalement ça ne scandalise personne. On s'y est habitué, on n'est pas scandalisé du tout. Voilà, et on est quand même, voilà, le pape Benoît, le pape François, tout ça sont des papes qui sont, d'ailleurs, il y avait à l'époque aussi du pape Saint-Léon, il y avait encore un des papes, hein, qui est encore vivant. Enfin bon, c'est assez romanesque, vraiment. Enfin, ils étaient tout à fait d'accord que c'est lui qui soit le pape. Hein. C'est parce que personne ne voulait être pape, de toute façon. Dans un contexte pareil. Lui, bon, bah, très bien. On te mènera où tu ne voudrais pas aller. On voit bien que quand il parle comme ça, on voit bien que c'est quelqu'un qui ne veut qu'être au ciel. Et pourtant, il est obligé d'aller. Voilà. Il est obligé d'aller de sortir dehors. Hein. Et puis d'aller restaurer, quoi. Dire non, vous ne pouvez pas faire ça, vous êtes destitué, vous n'êtes plus prêtre, hein, vous n'êtes plus évêque. Là, il y allait à pied. Évidemment, avant d'arriver à destination, les empereurs, les machins, envoyaient des soldats pour dire non, vous n'irez pas, hein, ne nous cassez pas les pieds avec vos histoires. Voilà, c'était vraiment. Et il vivait que de Dieu, il vivait que de la très sainte Trinité. Mais avec une clarté. Mais à chaque fois que je lisais ces paroles, on en lira quelques-unes si vous voulez, pendant ce jour-là. À chaque fois que je lisais ces textes, dans le courant de l'année, tous les moines, hein, tous les consacrés, on est à peu près, je ne sais pas, une quinzaine de millions à lire toutes les nuits, donc l'office de lecture. Donc sur la Terre, on n'est pas peut-être un peu plus, enfin peu importe, mais. À chaque fois, une quinzaine de fois peut-être dans l'année, c'est le pape Léon qui parle. Pape Saint-Léon. Et à chaque fois, je me disais, mais c'est incroyable. Il vient d'où celui-là? C'est le monde nouveau, il y a le corps spirituel, le monde nouveau. Et puis c'est une clarté, c'est nourrissant, c'est libérant, c'est. Voilà, c'est un pape qui était dans un contexte qui était totalement contraire, qui n'avait plus rien à voir, qui n'avait rien à voir avec ça. Et aujourd'hui, ce qu'il vivait, c'est ce que le pape d'aujourd'hui vit, quoi. Et on le voit bien en lisant ce texte. On se dit, mais c'est qui celui-là? Hein, j'ai découvert seulement hier qu'il était français. Je ne savais pas lui dire, ah, il est français. Voilà, tout s'explique, il est français. Il est alsacien. C'est pas parce qu'il est français, mais. La corruption était tellement grande en Allemagne, en Italie, que. Alors on a sorti celui-là, là. On va voir ce que ça donne. Une petite histoire, quand il était jeune, il dormait, et puis il y a le démon qui est venu sur lui. Enfin, en fait, c'était un crapaud. Un crapaud est arrivé sur son oreiller, et puis est venu l'agresser, le blesser. Alors, le crapaud, ça l'a réveillé, bien sûr. Et puis, il a chassé le crapaud. Et puis, le crapaud, donc, il est tombé du lit, etc. Il a appelé, mais il était blessé. Et il a vu le crapaud monter sur l'oreiller, lui il était descendu par terre. Les gens sont venus, ils ont cherché le crapaud partout, ils n'ont pas trouvé le crapaud. Mais enfin, il a gonflé de manière telle que normalement, il devait mourir. Enfin, le matin, il a failli mourir. Il a gonflé, gonflé, gonflé. Le démon, il griffait sous forme de crapaud. C'est extraordinaire, cette histoire. Et puis, Saint-Benoît est apparu. Il n'y a que lui qui l'a vu. Et puis il est venu le toucher, puis il a dans les endroits, et puis il a sucé le venin du démon qui était sur lui. Et puis comme ça, il n'est pas mort. Le pape Léon, c'est bizarre l'histoire d'un pape. Hein. Saint Léon. Alors évidemment, si vous lisez l'histoire de l'Église à la manière de Zwingli, Calvin, ou je sais pas qui, enfin bref, ou Jacques Lang, évidemment, c'est effrayant. C'est le pape de la simonie, c'était le pape qui faisait la guerre, c'est le pape qui versait le sang, c'est le pape qui... Alors pas du tout, c'est pas du tout, c'est pas du tout. Mais c'est sûr que les hommes versaient le sang. Il était au milieu de tout ça. Jésus est venu au milieu d'un monde vraiment complètement perverti, complètement taré, le monde dans lequel Jésus est venu. Jésus est venu dans un monde effroyable, complètement débile, complètement... Ah, bien sûr, il y avait Marie, c'est vrai. Il y avait l'Immaculée, ça. Il y avait l'Immaculée. Et puis il dit au pape, Ben Yohanan, fils de Jean. C'est le fils de Jean. C'est extraordinaire cette histoire-là. Parce que Jean était là, hein, et il va dire à Jean, mais... Et lui, il va devenir quoi? C'était le même, à la même minute hein, qu'il y a eu l'histoire de... Il y avait Marie, il y avait Jean, quand même. Il y avait Joseph, il y avait... C'est extraordinaire, ça. Mais sinon, tout le reste... Il y a la contemplation, si vous voulez, de l'Église éternelle. Il y avait Jean. Il y avait la contemplation de l'Église de la fin. Saint Jean a été dans la poitrine de Jésus. Il a reçu, grâce à cette proximité mariale avec le cœur de Jésus, il a reçu les délices. Il a fait les délices de Jésus au milieu d'un monde totalement ensanglanté, quoi. Dieu n'avait pas fait un crapaud hein, rempli de venin. C'est pas ça qu'il avait créé. C'est nous qui avons fait ça. Et puis, Saint Jean, lui, il découvre ça, que c'est nous qui avons fait ça, c'est pas Dieu. Dieu, lui, il a créé une création pure, c'est l'Immaculée. C'est ça qui sort du cœur de Jésus. Et ça fait les délices du cœur de Jésus de voir ce retour à la source. De Marie à travers la foi, de l'Église de la fin. Parce que Saint Jean, c'est l'Église de l'accomplissement final. Et le pape vient de la fin. Le pape, ça vient de l'Immaculée, l'infaillibilité. Ça vient de l'accomplissement de l'Église, c'est l'Église dans son accomplissement final. Voilà, c'est un fils de Jean. Ben Yohanan. C'est drôlement bien là, qu'on fasse cette prière la nuit pour le pape Benoît, en unité avec le pontife romain suprême François. Voilà, cette unité des deux, qu'on va dans l'unité des deux, qu'on s'engloutit dans l'unité des deux, qu'on va au-delà de l'unité des deux et qu'on trouve le Fils de Jean, qu'on trouve la fécondité apostolique. Fécondité mariale, quoi. La fécondité de celui qui fait les délices de Dieu dans l'amour apostolique, du ciel dans la terre. Alors l'infaillibilité, elle vient de là. L'infaillibilité, elle vient pas de ce que on est une religion séparée des autres, différente des autres. Elle vient pas de là du tout. L'infaillibilité est une émanation. Et l'émanation vient de la création surnaturelle. Et la création surnaturelle vient de l'accomplissement de la fin. La plénitude reçue, l'accomplissement final de l'Église. C'est ça qui a engendré l'infaillibilité de l'Église jusqu'à Pierre. C'est un pèlerinage descendant, l'infaillibilité. Vous avez tout compris? Elle vient de Saint-Joseph. C'est un pèlerinage descendant. Le pape Saint-Léon avait compris ça. Il en parle de ça. Spirituel, la plénitude reçue, Alors, comme il vit ça, il peut, peu importe qu'il soit le pape à l'époque de Saint-Pierre, à l'époque de l'an 1000 ou à l'époque de l'an 2000, c'est toujours la même infaillibilité. Vous voyez ça? Et nous, on prie comme ça, aujourd'hui, dans cette infaillibilité. Mais cette fois-ci, on est tout proche, tout proche, tout proche, tout proche de la fin. On n'est pas à 1000 ans de la fin, là. On est à quelques semaines, quelques mois. Pas de la fin, pas de la fin du monde. Pas de la fin du monde, mais de la fin de l'ouverture des temps. L'ouverture du cinquième sens. L'avertissement. Et on le sait. Donc là, ici, ce que nous faisons, en réunissant le fils de Jean, Marie et le pape, dans une seule corps spirituel en nous, dans un nouveau corps spirituel qui bat et qui palpite à l'intérieur de nous, pour faire lever la patte de l'infiniment petit de la création tout entière, c'est ça qui fait que nous sommes, comme l'Église épouse, comme membres vivants, corps spirituel vivant de l'Église, les engendrants de l'infaillibilité accomplie de l'Église, de l'au-delà de la fin, de l'éclosion des temps. Le monde ne s'arrêtera pas avec ça. Le temps de l'Antichrist, oui. C'est drôlement bien, vous voyez, qu'on fasse ça. Pour ça, c'est depuis février qu'on prie avec cette intention-là. Alors que, vous voyez, depuis 2 ans, chaque mois, c'était différent. Mais là, vous voyez, mars, avril, mai. C'est quelque chose de très très fort, ça, je trouve. Que Jésus nous a choisis dès l'enfance pour être le pape, pour être les semblables à l'Église accomplie dans la plénitude reçue de son accomplissement final. On a été choisis pour ça. Et plus on se rapproche de ce du cœur, de cette fusion nucléaire divine, voilà, on se rapproche du pape Saint Léon, du pape. Tout court, du Père, quoi. Et ce que je crois que petit à petit, les papes nous ont toujours essayé de nous expliquer ça, parce qu'eux-mêmes le comprenaient. Vous voyez, le pape innocent, qu'est-ce qu'il vient de dire? Il a dit choisi Pierre parce que c'est le plus petit de tous. Écoute, il est tout petit, tout petit, tout petit. Et lui-même, il le sait qu'il est pape, il sait qu'il est petit, si tu crois quoi. Et il voit bien qu'il n'y a que ça. Il le voit bien. On a été choisi, voilà, au milieu du monde, parce que Jésus est le seul, le Dieu unique. Jésus est l'unique. Présence éternelle de Dieu. L'unique présence éternelle de Dieu. Et nous sommes l'unique présence éternelle de Dieu parce que Jésus et nous, il n'y a aucune différence entre Jésus et nous. Il n'y a pas deux, il n'y a pas Jésus et nous. On est un. On est le pape. On est le Père. Le Père étant Jésus, Jésus est le Père est Jésus est dans le Père et le Père c'est Jésus, Jésus c'est le Père. Enfin, Jésus c'est Dieu et le Père est Dieu et Dieu est le Père. Jésus, enfin, Dieu est dans le Père. Voilà, et on est un. on est créé à partir de l'éternité accomplie de la fin et sa plénitude reçue. Le démon, lui, est rentré comme ça dans le temps. Les anges démoniaques sont rentrés dans le temps avant que la création de l'homme et de la femme. Et du coup, comme ils sont rentrés dans le temps, ils ont fait en sorte que on vive, comment dire, de notre union à Dieu, mais dans le temps. Mais Dieu n'est pas dans le temps. Et les enfants de Dieu non plus. Et les créatures de Dieu ne sont pas dans le temps. Les créatures de Dieu sont en Dieu. Ils sont dans l'éternité. Mais regardez, l'éternité, elle est dans l'accomplissement. Et l'accomplissement, ben, elle est dans l'acte pur. L'intellekeia proté, comme on dit en grec, elle est dans l'accomplissement final, dans la plénitude reçue de l'accomplissement final. Elle n'est pas derrière nous, tiens, une piche nette. Et Dieu a créé derrière. Non, non, la créature de Dieu n'est pas dans le temps. La créature de Dieu est à partir de Dieu. Mais le démon, lui, on va vivre dans le... On dit, voilà, c'est Dieu qui nous a créés. Mais non, c'est pas Dieu. Dieu ne nous a pas créés. Dieu n'est pas une cause efficiente, c'est pas une pichenette. Tiens, j'existe. C'est facile à comprendre, ça. Le démon, lui, il nous fait vivre de Dieu. On est déchu, donc... La première connaissance qu'on a de Dieu, c'est de dire, ben voilà, ben oui, Dieu nous a créés, et dans le futur, on ira vers Dieu. Ça, c'est du bouddhisme, ça. C'est Bouddha. Mais le Bouddha, il n'atteint jamais Dieu, forcément. Ah ben, je vais faire des progrès, et de plus en plus, je vais m'approcher de Dieu. On est compte, c'est affreux de dire ça. Maintenant, tout de suite, tu vis de l'accomplissement final, de la perfection accomplie, universelle, finale, dans sa plénitude reçue de toute l'Église. C'est ça qui m'est donné la gloire du Père et du Fils. À chaque fois, je dis, me voici, oui, je respire. C'est ça. Il n'y a aucune distance entre cet accomplissement final et moi. C'est ça que je suis. Là, j'échappe au démon parce que je ne suis plus dans le temps. J'échappe à l'histoire. L'histoire n'existe pas. Ce que disait le pape Jean-Paul II, il dit, mais l'histoire de toutes ces fatras, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est la foi. La foi, ça existe. Ça. La foi. Les meurtres, les génocides n'existent pas. Faites gonfler de dire ça. Non, mais enfin, il est fou, lui, il est dans... Il est dans son château doré, avec ses tons blancs, il a toutes ses bonnes sœurs qui s'occupent de lui, tout le monde qui le vénère. Ah, qu'est-ce qu'il raconte, n'est-ce pas? Mais non, il ne disait pas ça à cause de pour essayer de convaincre. Il disait, mais non, la foi, c'est le réel de Dieu, le réel. Voilà, ce qu'il faut, c'est la foi. Voilà, c'est à la fois tout est changé. On échappe au temps, le démon ne peut plus nous atteindre, ne peut plus nous tuer. Le royaume de la mort disparaît. C'est un fait. C'est un fait. Le royaume de la mort disparaît dès qu'on est dans la foi. On ne peut pas ne pas le voir. Que Dieu, le Père, nous a donné ce Saint-Esprit-là, vit en nous, comme paraclet, comme paraclet. Paraclet, c'est... Ça fait les délices de Dieu. Et nous avons été créés pour faire, dès cette terre, les délices de Dieu. C'est-à-dire étant... qu'il n'y a pas... séparation, c'est une unité, on n'est pas deux, il n'y a pas Saint-Esprit et nous, on est un. Avec le paraclet, C'est ça le mystère de Marie, c'est ça la foi immaculée, l'infaillibilité. l'accomplissement, la plénitude reçue, c'est ça, c'est l'unité avec le paraclet. C'est l'au-delà de l'unité avec le paraclet, c'est le délice de Dieu. La foi que Dieu nous a donnée, le baptême, les sacrements, dépassent complètement notre existence, saisissent notre existence de l'intérieur, mais font qu'on est un homme, un être nouveau. C'est Dieu lui-même, engendré éternel de Dieu. Et cet engendré éternel de Dieu, c'est émanation éternelle de Dieu en vérité. C'est le paraclet. On est l'émanation éternelle de Dieu. On ne fait pas nombre avec le Saint-Esprit. On a été créé pour ça. C'est la signification. On prie. Et le monde n'a plus aucune... n'a plus aucun poids à côté de celui qui est tout petit et qui a la foi. Le monde entier, tous ces temps, toutes ces histoires, n'a pas la moindre importance par rapport à un petit là, qui a la foi. Qui a cette foi-là, la foi catholique, la foi infaillible, la foi divine, la foi de ne pas nombre avec le Saint-Esprit. On n'a pas deux, on est un. On est Marie, c'est l'épouse du Paraclet. Dans l'au-delà de l'unité des deux, elle trouve Dieu. Et Dieu, le Père est en Dieu. Voilà, vous avez la très sainte Trinité. Et Jean, il vit ça. Il vit de ça. Saint Jean vivait de ça. Hein. On voit très très bien que Saint Jean vivait de ça. Alors, il faisait les délices du cœur de Jésus broyé dans sa passion. Il faisait ses délices. Et il fait encore ses délices aujourd'hui. Dans la résurrection, il fait ses délices. Aussi, dans l'effacement du Père à l'intérieur du Verbe de Dieu comme épouse, il fait les délices dans son unité avec le Paraclet en Marie. Il est l'Église catholique quelque part, il est lui-même ce que nous sommes. L'Église de l'ouverture du cinquième psaume de l'Apocalypse, c'est l'Église de Yohanan. Regardez les prophéties qu'on dit pour le pape. Il va y avoir à partir de Saint Bernard, donc à partir du pape, signal, Saint Bernard, c'était 1040, 1020, 1020, donc à l'époque du pape Saint Léon. Il me plaît ce pape Saint Léon. Et à partir de là, il va y avoir 111 papes. Vous connaissez les prophéties de Saint Bernard, Saint Malachie. Et le 111e pape, c'est Benoît XVI. Bon, le 110e, c'était Jean-Paul II. Et puis, voilà, il y a une petite 3-4 mots pour chaque pape, et puis pour le pape. Et puis, il y a un autre, mais qui n'est pas dans ces 111, mais qui vient là. Bon. Et c'est Pierre. Pierre le Romain. Pierre II. Voilà. Celui-ci, François, il a été. Le conclave l'a désigné le 13 mars. Au martyrologe romain, c'est là qu'on fête Pierre II. Saint Pierre II. C'est un moine de Salerne, de l'an 1080, quelque chose comme ça. C'est le seul saint qui s'appelle Pierre II. C'est là que... Bon, alors celui-ci, il arrive. Bon. Et après, plus de pape, dans la prophétie de Saint Bernard. Peut-être qu'il dit, bon, écoute, ce sera un autre saint qui donnera la suite des 111 papes suivants. Je ne sais pas. Mais n'empêche qu'en tout cas, c'est sûr qu'on a un petit signe quand même, que là, il y a un arrêt. Pourquoi il y a un arrêt? On le sait, nous, pourquoi il y a un arrêt. Mais parce qu'elle s'y aussi, mais soi-même, on sait très bien que le temps va s'ouvrir, qu'il va y avoir l'ouverture du cinquième saut de l'Apocalypse. On n'est pas né idiot quand même, donc on est... ni aveugle, ni sourd, on est comme Saint-Pierre, on écoute, comme dit le pape Innocent III. Pierre, il écoute, Simon, celui qui écoute. Tout petit, le tout petit écoute. C'est-à-dire, il dit, me voici, j'écoute, je m'aime, me voici, j'écoute, je suis prêt. Chemin, je m'aime, j'écoute, je m'aime. Dans le silence, chemin, je m'aime, me voici. Et du coup, il y a la présence de Dieu, Shem, le nom d'Elohim. Shema, Shem, Shem. Voilà ce que c'est que le pape, pour ce pape Innocent III. Voilà ce que je viens de dire. Ah ! Voilà ! pas idiot. Donc on voit bien, oui, le temps va s'ouvrir. Cinquième saut de l'Apocalypse. Ça y est, c'est l'infallibilité universelle sur la terre. L'infallibilité de Pierre, de Jean, de Marie, de Joseph font une seule. Voilà, le temps nouveau, le monde nouveau. Voilà, qu'est-ce que c'est? C'est extraordinaire cette histoire-là. Il va y avoir l'ouverture de tous les temps, alléluia. L'avertissement, comme on dit, la vie sort, cinquième saut. Bon, c'est pour nous, très bien. Mais ça veut dire que, quelque part, on est à la source de l'infaillibilité. On va toucher en nous, de manière sensible, universelle, reconnue, explicite, la source de l'infaillibilité. Yohanan, Shimon, Ben Yohanan. Le principe de l'infaillibilité de Pierre. Le principe de l'infaillibilité de l'Église accomplie. Alors oui, ce ne sera pas seulement le pasteur des brebis, ce sera aussi le berger des agneaux. Et puis surtout, le pasteur des agneaux, vous voyez, il y a quelque chose, il y aura toujours l'infaillibilité, il y aura toujours un seul troupeau, un seul pasteur après. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais il n'y a pas un seul troupeau, un seul pasteur. Mais là, tout de suite, là, on va avoir. Voilà, nous avons dans notre petitesse conscience de ça. On n'est pas. Nous entendons tout à fait ça, que bien sûr, le temps est contraire à ça, mais nous entendons parfaitement que le temps va s'ouvrir et que c'est. Nous qui en sommes le principe et le récepteur, le tabernacle. On devient le tabernacle du paraclet et de la sponsorité incréée de l'Église et de l'au-delà de l'Église, glorieuse avec le paraclet. Nous en sommes le tabernacle. Et comme ça, tous les instants vont échapper au temps à travers la foi de l'Église du monde nouveau, du cinquième saut de l'Apocalypse. L'église du cinquième saut de l'Apocalypse, c'est une église qui échappe à l'opacité invincible du temps. Nous sommes tout à fait d'accord, on le comprend, on le sait, on prie pour ça, et on est récepteur, et on laisse le Saint-Esprit nous le montrer, et on vive par anticipation. Cette communion avec le Saint-Père est quelque chose de très 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 grand. Dans le cœur de Marie, dans l'Apocalypse de Jean. Et ça, c'est quelque chose de très nécessaire, de très très important. C'est pas du tout une spiritualité parmi d'autres, c'est maintenant, quoi. C'est l'impératif de Dieu, c'est le commandement de Dieu, c'est le principe de Dieu pour aujourd'hui. Vous devez en avoir assez que je vous répète toujours la même chose.